Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est 12h30. Et tout de suite, le journal vous est présenté par Clotilde Ravel. Bonjour Clotilde.
Bonjour Tiffaine, bonjour à toutes et à tous. Les Maliens votent depuis ce matin 8h30, deuxième jour de l'élection présidentielle, et un scrutin qui semble joué d'avance. Ibrahim Boubacar Keïta est pratiquement sûr de l'emporter face à son rival Soumaïla Cissé. Dans tous les cas, le président élu devra faire face à des enjeux importants dans un pays marqué par l'insécurité, nous dira le chercheur Andrew Leibovitch. Comment inciter les consommateurs à privilégier des produits fabriqués à partir de plastique recyclé? Selon le gouvernement, cela passe par des taxes pour les consommateurs, des mesures incitatives sans contrainte pour les industriels, dénoncent les écologistes. À la fin de ce journal, nous parlerons d'une compétition ouverte à toutes et à tous, quel que soit l'âge, le niveau, le handicap ou l'orientation sexuelle, les Gay Games. Ils se clôturent aujourd'hui à Paris, après avoir accueilli des milliers d'athlètes de tous les pays. Léa Gage a recueilli leurs impressions. Élections sous haute surveillance en ce moment même au Mali, où les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h30 ce matin. Match retour pour les deux candidats, Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, et Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Ils s'étaient déjà affrontés il y a 5 ans. À l'époque, IBK avait largement remporté l'élection et il est encore donné favori pour ce scrutin au Mali. Le Mali qui reste l'un des pays les plus pauvres du monde, enclavé dans le Sahel, également en proie à des attaques djihadistes et à des violences intercommunautaires, autant d'enjeux économiques et sécuritaires auxquels le président élu devra faire face. Selon Andrew Leibovitch, il est chercheur associé au Conseil européen des relations internationales, spécialiste de l'histoire africaine.
Le Mali se trouve dans une position très difficile, certainement à cause de l'insécurité grandissante, les faillites de gouvernement, mais aussi les affaires de la corruption qui sont très graves et qui restent graves, et aussi le fait de traduire la croissance économique dans les bénéfices pour la population, parce qu'effectivement, ça fait quelques ans que le Mali a bénéficié d'une taux de croissance assez respectable, de plus de 5%, mais la pauvreté est pire qu'avant. Et on a le sentiment au Mali aujourd'hui que cet argent ne circule pas dans le pays. C'est un moment où la communauté internationale dépense énormément d'argent au Mali pour les programmes de développement, mais aussi pour les programmes d'encadrement, de formation des forces de sécurité et aussi le gouvernement. Mais on a l'impression que ça ne fait pas une grande différence pour la population. Donc il y a des enjeux énormes pour ce probable deuxième mandat d'IBK et ce n'est pas clair du tout qu'ils seront capables de faire face à tous ces enjeux.
Andrew Leibovitch, interrogé par Laura Dulieu. Lignes téléphoniques coupées, pénurie de nourriture et d'eau et des dizaines de morts et de blessés dans la ville de Ghazni en Afghanistan. Les talibans affrontent toujours les forces gouvernementales selon les habitants. Troisième jour de combat. Le gouvernement avait pourtant affirmé avoir repris le contrôle de la ville, une ville stratégique située sur l'axe principal reliant Kandahar à Kaboul. 10 personnes blessées à Manchester dans une fusillade. Elles ont été hospitalisées cette nuit. Elles souffrent de blessures légères à graves, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le mobile et l'auteur de cet acte sont pour l'instant inconnus. Il était l'une des grandes figures de la littérature anglaise, l'une des plus ombrageuses aussi. Prix Nobel de littérature en 2001, l'écrivain britannique V.S. Naipaul est mort hier. Cet homme plutôt sombre, intransigeant, réputé pour son conservatisme politique, son caractère irascible et sa misanthropie, est l'auteur de plus de 30 ouvrages. Parmi les plus connus, son autobiographie « Une maison » pour Monsieur Bisouas ou encore « Jusqu'au bout de la foi ». Il avait 85 ans. Les Indiens Mapuche, la principale ethnie indigène du Chili, discriminée par la justice chilienne. Conclusion d'un rapport publié par Amnesty International cette semaine. L'ONG qui a observé et analysé deux procès importants survenus ces derniers mois. Dans les deux cas, l'Organisation de défense des droits de l'homme pointe de nombreuses atteintes aux droits des personnes accusées. Des enquêtes partiales, des procès marqués par des irrégularités, mais aussi des preuves obtenues illégalement. À Santiago, les précisions de Justine Fontaine.
Principale critique faite aux autorités chiliennes, l'application de la loi antiterroriste contre les membres de communautés Mapuche. Ce texte permet de recourir à des témoins anonymes ou encore d'interdire l'accès des accusés à leurs dossiers pendant une longue période. Selon Amnesty International, il n'a pas lieu d'être utilisé dans ce genre d'affaires, d'autant moins que le Chili a déjà été condamné pour cette raison par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Valentina Ballesta est l'une des auteurs du rapport.
La Corte interaméricaine des droits humains, en
2014, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a jugé l'État chilien responsable d'avoir violé les droits de plusieurs accusés sous le régime de la loi antiterroriste. C'était des personnes mapuche. Or, quand nous sommes allés observer des procès après cela, nous avons pu observer que les mêmes violations commises à l'époque continuent aujourd'hui. Et en plus de cela, nous avons constaté cette fois-ci que des avocats de la défense ont été harcelés, soumis à des pressions, et que des preuves obtenues illégalement ont été utilisées pendant l'un des procès.
La loi antiterroriste chilienne a été adoptée sous la dictature du général Augusto Pinochet, mais elle n'est utilisée contre les Mapuche que depuis la fin des années 1990, alors qu'ils exigent la restitution des terres de leurs ancêtres confisquées lors de la colonisation.
Et vendredi, le comité de l'ONU a demandé au Chili l'arrêt des mesures antiterroristes contre les membres de cette communauté. L'extrême droite américaine a rendez-vous à Washington ce soir. Environ 400 néo-nazis vont manifester devant la Maison-Blanche. Dans le même temps, des militants antifascistes organisent un contre-rassemblement. Les autorités sous tension craignent un nouveau drame. Seulement un an après les incidents meurtriers de Charlottesville, un suprémaciste blanc avait foncé en voiture dans une foule de contre-manifestants et tué une jeune femme de 32 ans. Depuis quelques heures, la sonde Parker fait route vers le Soleil. Elle a été lancée ce matin depuis la Floride. C'est la première réalisation humaine à tenter de traverser l'atmosphère du Soleil et à s'en approcher d'aussi près, 6 millions de kilomètres. Il a fallu des décennies pour créer une technologie capable de résister à ces chaleurs extrêmes. En cette période de vacances, vous avez peut-être été confronté à la présence de déchets en plastique sur les plages. Au total, 10% de la production dans le monde finit dans l'océan. Pour lutter contre cette pollution, le gouvernement annonce une série de mesures bonus-malus pour inciter les Français à consommer du plastique recyclable. Insuffisant selon les écologistes qui veulent une réduction globale de la production de plastique et des mesures pour les industriels. Car les annonces de la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire Brune Poirson ne concerne que les consommateurs et les communes, Margot Steve.
L'objectif, c'est d'arriver à 100% de plastique recyclé d'ici 7 ans. Pour le moment, on est à 20%, 5 fois moins donc. Et ça commence dans les rayons des supermarchés. Le gouvernement veut mettre en place un système de bonus-malus pour les bouteilles. En clair, à partir de l'an prochain, une bouteille en plastique recyclé coûtera moins cher qu'une autre qui ne l'est pas, avec une différence de prix de 10%. Autre objectif, inciter les communes à recycler au lieu d'enfouir les déchets avec un changement de fiscalité. La taxe sur les activités polluantes va augmenter et la TVA sur le recyclage baissée. Des mesures incitatives, donc sans contraintes pour les industriels et qui ne font rien pour diminuer la consommation de plastique, dénoncent les écologistes. L'an dernier, près de 3,5 millions de tonnes d'emballages plastiques ont été recyclés en France. Des volumes qui augmentent tous les ans.
Margot Steve pour France Culture. Ces organisateurs la définissent comme la compétition la plus inclusive au monde, un lieu d'expression et de liberté. Les Gay Games, les Jeux Olympiques LGBT, se clôturent aujourd'hui à Paris. 10 000 participants sont venus de plus de 90 pays pour le sport, mais aussi pour faire passer un message de visibilité et d'inclusion dans la communauté Léa Gage.
Marcus et Jessie ne rapporteront pas de médaille à New York, mais peu importe.
Un beau parc et des personnes sympas pour courir, c'était chouette.
On a couru main dans la main jusqu'à la ligne d'arrivée.
Main dans la main, ça n'a l'air de rien, mais pour Maxime, venu de Russie, ça veut dire beaucoup.
Oui, je l'ai fait déjà avec un garçon français. On était aux Champs-Élysées, où il y avait beaucoup des participants des Gay Games. Tout le monde se promène comme ça, la main dans la main, s'embrasse. Pas des regards bizarres, ça fait du bien.
S'exposer sans crainte, dans les stades ou dans la rue. Pour Livan, originaire de Cuba, c'est même un acte politique.
Il y a des campagnes d'affichage en faveur de la communauté LGBT, c'est très positif. Être ici, ça nous permet d'être visibles dans un contexte sûr pour la communauté. Je veux faire passer ce message à la société cubaine et aux politiques.
J'emmènerai ma femme pour les prochaines vacances. On reviendra à Paris.
En Afrique du Sud, Hlengiwe défend les droits des personnes LGBT.
J'ai l'impression que Paris est plus libre que certains pays d'Afrique. Même s'il peut y avoir des homophobes, au moins, ils ne te tueront pas.
La coureuse activiste espère qu'un jour, des Gay Games seront organisés en Afrique.
Météo France étend sa vigilance orange aux orages à 4 nouveaux départements. Le Lot, l'Aveyron, le Tarn et l'Ariège. 10 départements au total sont en alerte. Prudence si vous habitez dans la Haute-Garonne, le Gers, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne, avec des risques de grêle et de fortes rafales de vent entre 16h et 22h. Sur le reste du pays cet après-midi, des nuages du Poitou-Charentes au centre et des averses entre les côtes de la Manche et le Pays de la Loire. Ailleurs, du soleil et des températures en hausse. Il fera 20 à 23 degrés sur la Bretagne et le Cotentin, 24 à 32 degrés sur la moitié nord et 28 à 34 degrés dans le sud.